Depuis le début du mois de juillet, j'ouvre cette émission par un petit texte, un édito. Chaque jour, je suis face à une feuille blanche et je me demande de quoi j'ai bien envie de vous parler. Ce petit exercice n'a peut-être l'air de rien et pourtant, je suis toujours un peu soulagée quand j'en ai fini. Par de simples anecdotes, je vous laisse de jour en jour entrevoir plus précisément qui je suis, ce qui m'agace, ce qui me touche, ce qui me passionne. Je vous ai parlé de la voix, du concept nauséabond aussi de la méritocratie. Je vous ai avoué certains de mes méfaits, ma roublardise dans les festivals, ma manie de scruter les personnes âgées. Et c'est là que la magie opère. Depuis le début du mois, vous êtes très nombreux à prendre le temps de m'écrire, un véritable temps. Pas juste un smiley pouce vers le haut, non, non. Vous prenez la plume, le clavier pour réagir à cette émission et réagir aussi à mes éditos. Je voulais vous dire que vous me comblez à chaque fois. Ainsi, Valérie m'a raconté comment, elle aussi, elle observait les personnes âgées dans le métro. Benoît m'a dit qu'à cause de moi, il s'était mis à écrire dans un carnet tous ses sentiments de déjà-vu, pour ne pas oublier. Ou encore Nina, qui m'a expliqué hier soir qu'elle faisait une différence entre voler et piquer. Elle n'a jamais volé un livre de sa vie, en revanche, elle en a piqué une petite dizaine. Dans un cas, c'est condamnable, dans l'autre, c'est un forfait complètement excusable. Aujourd'hui à France Inter, on a bu un coup pour fêter les bonnes audiences. 1 821 000 auditeurs pour la bande originale, émission la plus écoutée de France à 11h. Je m'en réjouis d'autant que j'en fais partie. Mais ce que j'aime, c'est mettre des prénoms et des histoires derrière ces chiffres. Vous faites de moi une animatrice ravie, devenue une glaneuse d'histoires. Et je vous en remercie.
France Inter, le Mac de l'été. Leïla Kadour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous avec la culture du lundi au vendredi sur cette antenne, histoire de vous parler de tout ce qui nous met en joie aujourd'hui. Une comédienne qui m'a tapé dans l'œil depuis un petit moment, alors je profite de cette émission qui est un peu mon royaume pour lui faire une place sur le trône. Bonjour Marlène Saldana.
Bonjour Leïla.
La première fois que je vous ai vue sur scène, c'était en 2015 à la Colline et j'ai été saisie par une forme de liberté qui s'est dégagée de vous. J'ai été comme aimantée. Et c'est assez rare pour être souligné. Tout d'un coup, un effet bœuf, quoi. Marlène Saldana, bam, tout de suite. votre image s'est imprimée dans ma rétine. Avec vous, on a affaire à une comédienne à part. Une manière de se mouvoir dans l'espace. Un sens du rythme très différent. Une occupation du plateau aussi assez inédite. Et puis, je vous vois interpréter tous les registres. Et surtout, passer de l'un à l'autre avec une extrême aisance. Vous êtes comédienne, metteur en scène, danseuse, performeuse. S'il vous fallait développer un autre art dans votre pratique, ce serait lequel ? Vous faites de l'impro aussi.
Vous savez, j'ai aussi été peintre pour un de nos spectacles avec Jonathan Drier.
Oui.
J'ai reproduit un tableau de James Ensor. J'étais très très fière de moi. Non, moi j'aurais adoré savoir écrire de la musique. Ça, c'est mon grand fantasme qui malheureusement n'arrivera jamais. Et voilà.
Composer des mélodies, écrire des chansons.
Plutôt musique classique, opéra, ça j'aurais adoré faire ça.
Et vous allez voir de la musique classique, vous essayez de...
Malheureusement pas assez, mais peut-être que le comment dire, peut-être pas le spectacle dans lequel j'ai été le plus heureuse, mais j'ai participé en tant que figurante à La Flûte Enchantée de Christian Loupa, il y a des années de ça, au Festival d'Aix-en-Provence à l'Archevêché. Et je crois franchement que c'est le moment sur scène qui pour moi était le plus incroyable. Bon, j'étais que figurante, mais il avait mis beaucoup de velléité sur nous parce que les chanteurs ne voulaient rien faire. Donc on était six pauvres figurants à danser à droite à gauche pendant tout l'opéra. Mais c'est un de mes plus grands souvenirs, ouais, de plateau.
Qu'est-ce qui vous touche autant dans la musique classique, vous qui savez faire tellement de choses ?
Je sais pas, c'est vraiment d'être avec un orchestre. Moi, j'aime beaucoup les ensembles, les groupes.
Vous êtes une fille du collectif, ouais.
Donc être avec un orchestre, l'orchestre qui joue pendant que vous êtes sur scène. Enfin, c'est dingue ce qu'on ressent en étant sur scène, quoi. Les chanteurs. Enfin bon, tout ce qui fait un opéra, toute la machinerie. Mais vraiment être avec moi, c'était l'orchestre et le chœur. Ça m'en est dingue, quoi. Enfin, j'adorais ça. Voilà.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Pour commencer cette émission, on fait les choses à l'envers, Marlène, avec un questionnaire la dernière fois. La dernière fois, vous avez eu envie d'écrire à un metteur en scène pour lui dire à quel point vous aimiez son travail.
Je crois que ça m'est jamais arrivé.
Ça vous a jamais traversé?
Alors, si je devais y penser, j'écrirais à Romeo Castellucci et Christophe Marthaler.
Pourquoi ces deux metteurs en scène?
Ah bah parce que Romeo Castellucci, je peux aller voir n'importe quelle pièce montée par Romeo Castellucci. Pour moi, c'est comme Disneyland. C'est-à-dire, j'adhère tout, je trouve tout génial, tout marche sur moi. Vraiment, c'est comme ça.
C'est quoi sa façon de créer des images? C'est tout d'un coup ces grands chocs visuels qui nous imposent sur
scène. Ouais, les images,
mais
même comment sont les gens sur scène, ces acteurs. Moi, je trouve ces acteurs formidables, formidables. Son acteur qui était dans... Bon, moi, la plus belle pièce que j'ai vue de ma vie, c'est Purgatoire. Vraiment, je m'en souviendrai toujours. C'est rien que d'en parler, ça me fait de la chair de poule. Et cet acteur italien, dont malheureusement je n'ai pas le nom là tout de suite, il est génial ce type. Il joue tout comme si, je sais pas, comme s'il était à la télé. en même temps entouré d'une scénographie incroyable. Il fait des tout petits trucs, des trucs énormes. Enfin, voilà. Donc moi, même, c'est évidemment Castellucci, on pense tout de suite. Esthétique, scénographie, etc. Mais même sa direction d'acteur, je la trouve incroyable. Puis là, j'ai regardé il y a pas longtemps le Requiem sur Arte.
Le Mozart, qui était à Aix-en-Provence.
Ce cœur, incroyable, ce cœur. C'était dingue. Voilà.
La dernière fois que vous n'avez pas aimé une pièce, mais que vous avez été obligé d'aller voir le metteur en scène ensuite pour saluer, qu'est-ce qu'on dit dans ces circonstances?
Oh là là.
On s'échappe.
Bon, après, moi souvent quand je vais voir, malheureusement, j'ai pas assez de temps pour aller voir tout ce que je voudrais aller voir. Quand j'y vais, la plupart du temps, c'est parce que c'est des amis. Et comme c'est des amis, je suis tellement contente de les voir que je suis un peu nulle moi. Je suis très bon public en fait. Donc surtout quand je connais les gens. Donc je suis surtout contente de les voir et voilà. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Bah souvent les gens vous disent merci ou c'est pas mon théâtre ou des choses comme ça.
Ah c'est vrai. Oui.
Ah oui. Mais il y a une pièce de Sophie Pérez avec Stéphane Roger qui s'intitule Le piège à loup, dans lequel c'est un solo pour Stéphane et dans lequel pendant 20 minutes il fait tout un truc comme ça sur que disent les gens qui ont pas aimé, comme par exemple je suis pas rentré dedans.
Je suis pas rentré dedans.
Ouais. J'ai pas fait un effort, rentre dedans. Voilà.
La dernière fois que vous avez revu des images de vous plus jeune sur une scène. Est-ce que vous avez des captations et que vous visionnez comme ça, parfois, sans faire exprès, vous retombez sur des archives, se revoir dans sa pratique?
Oui, ça m'arrive, mais même, vous savez, à 10 ans près, c'est terrible. Enfin,
ça veut dire quoi, c'est terrible?
Bah, c'est terrible le physique, comme on change. Surtout que moi, les images que j'ai de moi il y a 10 ans, c'est très souvent à poil en body painting.
Il faut dire
évidemment,
que vous aimez beaucoup ça.
Ouais. En 10 ans, le corps change, hein, proche de la ménopause, évidemment, des choses se passe. Voilà.
Vous vous regardez difficilement ou pas?
Non, pas difficilement, mais j'ai parfois des petits pincements au cœur et souvent je me dis à l'époque, je me trouvais horrible, et ben en fait c'est pire aujourd'hui.
Oui, je comprends ça. On a toujours un jugement terrible sur le moment, ouais. Et après on se dit, on est
finalement,
une sorte de tendresse avec soi.
Finalement j'étais pas si mal
et
par rapport
pas
à aujourd'hui.
Ouais. Ouais. La dernière fois que vous avez eu envie d'adapter un texte pour la scène? Parce que vous mettez en scène, mais est-ce que pourrait-vous traverser l'envie de prendre un classique, d'en faire quelque chose? Quelle serait votre matière première, vous, absolue? Est-ce que des textes préexistants, ça vous tente?
Vous voulez dire des pièces de théâtre,
par exemple?
Pas forcément.
Oui.
Pas forcément, non. Moi, j'aime bien... avec Jonathan Driet, mon acolyte, on aime bien écrire nos textes.
Mais je sais, mais s'il fallait prendre un vrai texte, est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être possible? Vous avez un tel univers aussi, tous les deux, et puis plus globalement, vous, dans tous les projets auxquels vous collaborez, que est-ce qu'on peut imaginer Marlène Saldana sur scène avec un texte un peu classique, un truc un peu plus corseté?
Je vais vous faire une confidence, c'est que ça nous est déjà arrivé avec Jonathan de devoir choisir un texte parce qu'on avait été invité au festival actoral du Bercola qui fait un travail formidable à Marseille. Il nous avait proposé de mettre en scène une lecture et donc il a fallu qu'on choisisse un texte parmi tous les textes qu'il nous proposait. Ça a été un enfer parce que moi je n'arrive pas à lire le théâtre, c'est-à-dire c'est vraiment terrible. Au bout de 3 pages, je n'arrive pas, ça m'ennuie.
Mais c'est bien de le dire parce qu'on
Mais je trouve merveilleux les auteurs de théâtre qui écrivent des pièces merveilleuses, mais je n'arrive pas à le lire. Je ne sais pas pourquoi. C'est un blocage, c'est un truc. Et donc souvent c'est Jonathan qui lit à ma place et puis qui me dit ça c'est pas bien. Voilà. Et je lui fais une confiance aveugle.
Marlène Saldana dans le Mac de l'été. Ma première fois, je l'ai dit, c'était en 2015 à La Colline, à Paris, dans une pièce mise en scène par Christophe Honoré, La fin de l'histoire. Il faut que je vous raconte un peu, chers auditeurs, l'image qui est restée donc gravée dans ma rétine, qui m'a ensuite donné envie de vous voir, Marlène, dans tous les projets où votre nom était inscrit. Je pense que je vous ai pas loupé depuis, vraiment, pas une seule fois. Je vous revois donc interprétant Staline. Et subitement, l'homme à la moustache qui a traumatisé des millions de bolcheviks et qui a suscité même leur mort se transforme en homme à la moustache, mais qui vante la cabane au fond du jardin, j'ai nommé Francis Cabrel.
Oui.
Donc là, voilà, on est dans un exercice qui a déclenché l'hilarité du public. On est quand même sur une pièce qui est pas simple, la fin de l'histoire. Et tout d'un coup, à un moment où on considère que c'est complètement impossible, même que ça pourrait sembler indécent de voir surgir le comique dans cet espace, Marlène Saldana arrive. Non mais il y a un peu de ça
non,
quand même.
C'est
Francis Cabrel qui arrive, mais en dessous c'est quand même Marlène Saldana. Depuis vous êtes devenue la mascotte de Christophe Honoré, il n'y a pas un projet sans vous. Il n'y a vraiment pas un projet sans vous, Christophe Honoré, presque.
Non, c'est faux, je ne suis pas dans son dernier film d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi.
On lui enverra donc le message.
Je plaisante.
Comment est-ce que, dans ces circonstances-là, avec cette pièce en particulier, on arrive à prendre à bras-le-corps cette dimension comique, alors qu'on est la seule à jouer sur ce registre à ce moment-là?
En fait, je peux vous raconter comment ça s'est passé, par exemple, cette histoire de Francis Cabrel. C'est que tout simplement, il fallait faire un changement de décor. Et c'est tout simple. Parfois, c'est tout simple, vous savez. Et puis, un changement de décor et de personnage, parce qu'on était au milieu de la pièce. Et juste avant, on interprétait des philosophes, donc c'était très, très sérieux. Et puis, on s'est dit, bon, bah là, il faut qu'on passe vraiment à autre chose, vraiment. Et en plus, la scène d'après, c'était on refaisait les accords de Munich.
C'est ça.
Tous les chefs d'État gouvernement autour de la table. Donc il fallait faire une espèce de petite transition. Et puis c'est vrai que comme j'avais les cheveux longs à l'époque, avec une moustache, eh bien je ressemble à Francis Cabrel tout simplement. Et on s'est dit tiens, et si on faisait ça.
Et voilà l'occasion. Et vous avez
foncé
dedans.
Mais Christophe est très client pour ces choses-là aussi. C'est-à-dire que voilà, on est, je ne suis pas seule dans cette. Dans ce courant, c'est que j'ai quelqu'un en face qui me laisse faire et puis qui m'encourage même. Donc
vous avez donc incarné Staline Cabrel, je l'ai dit, et puis vous avez un truc avec les dictateurs.
Oui, c'est vrai.
Hein. Kadhafi.
Oui, Kadhafi. Oui.
Et là, c'est pareil, c'est ça sort d'où? Parce que quand
sur
le papier, quand on voit la liste, on se dit qui est Marlène Saldana? C'est pas possible.
Oh bah, ça sort que on était à New York avec toujours Jonathan Drillet et puis on devait faire une pièce et puis à ce moment-là Kadhafi avait monté sa tente à Central Park et puis on s'est dit tiens et si on faisait une pièce qui s'intitule Le prix Kadhafi parce qu'on avait découvert que Kadhafi avait un prix remettait un prix pour la paix tous les ans et ça nous semblait intéressant de travailler là-dessus et en fait on a fait une trilogie qui s'appelle donc Le prix Kadhafi. La première partie s'appelait un Chinois dans les tranchées de Verdun gagne le prix Kadhafi, je crois. La deuxième partie, l'art moderne doit presque tout à l'Afrique. Et la troisième partie, boum la Suisse au... Je me souviens plus. au bout de je sais plus quoi l'équilibre. Voilà, donc on a fait trois pièces sur sur Kadhafi, dont la pièce où Kadhafi rencontrait Sarkozy secrètement pour son anniversaire. Et ensuite, on a bien ri quand on a vu tout ce qui se passait dans l'actualité.
À chaque fois, il y a quand même une dimension contestataire. Il y a, c'est pas transparent simplement. C'est pas simplement des projets pour faire sourire. On est d'accord.
Ah non, on travaille beaucoup. Mais oui. On travaille beaucoup. On travaille énormément. On travaille tous les jours, je dirais. On fait un vrai travail de j'ai l'impression que tout le monde fait ça. C'est complètement de recherche,
documentation,
sur nos sujets.
Ouais, bien sûr.
D'ailleurs, on passe des, quand on a fait la pièce sur la France-Afrique, on a passé mais des mois entiers à lire tout ce qu'on pouvait, à regarder toutes les pires vidéos du monde sur le Rwanda, sur tout ça, pour pouvoir être le plus proche possible de la réalité.
Ouais, c'est vraiment documenté. On va revenir à tous ces projets. Vous nous avez parlé de body painting, vous êtes fan de perruques, de maquillage, de plumes. On va revenir sur aussi vos travaux avec Christophe Honoré. Et qui dit Christophe Honoré, ben forcément on pense à Alex Baupin. C'est le son du jour sur France Inter à 18h27. Alex Baupin, son nouveau titre, Cours camarade.
Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Camarade, le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours. Sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Marlène Saldana, toujours mon invitée dans le Mac de l'été sur France Inter. Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 non.
Non, 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 Camélia Jordana, pas le baron. Ce soir, tu es aux Vieilles Charrues. Le festival breton, c'est parti, 28e édition. Et comme toujours, à l'affiche, les poids lourds de la musique, des internationaux et des Français. Tears for Fears, Iggy Pop, Aya Nakamura, un savant mélange qui réunit toute la famille dans la tradition du fest-noz. Ce soir, en plus de Camélia Jordana, Hubert Lenoir, Balthazar et Skunk Anansie.
Zio?
No, Claudia, resta, non c'è nessun idillio. Va bene così? Contento?
Il fait bon passer l'été sur Arte.tv, la chaîne franco-allemande, programme en ligne un cycle italien avec Théorème de Pasolini, L'Aventura d'Antonioni, un cycle Romère aussi, L'histoire d'un pneu ou d'un pneu, selon, de Quentin Dupieux, et un petit coup de Xavier Dolan parce que ça ne fait jamais de mal avec les amours imaginaires. C'est nous qui sommes nés sous une bonne étoile, dit donc Arte.
Au nom de la solidarité entre expatriés.
Donnez-lui sa chance, s'il vous plaît.
Autre festival que je tenais à vous signaler, celui des passeurs d'humanité organisé par les amis de la Roya, cette vallée à la frontière italienne dont on a beaucoup parlé grâce à Cédric Héroux, cet agriculteur qui a tendu la main à des migrants. 4 jours de rencontres, de découvertes, de fêtes aussi en faveur de l'accueil des réfugiés. La chanteuse Émilie Loiseau sera de la partie.
Leïla Kaddour. Le Mac de l'été sur France Inter.
Marlène Saldana, vous avez été honorée d'une récompense récemment, le prix de la critique meilleure comédienne pour votre rôle dans Les Idoles de Christophe Honoré, que j'ai eu la chance de venir voir. Et bien justement, Christophe Honoré, cet homme qui parcourt un peu toute votre biographie et votre carrière, on l'écoute.
Moi je crois que vous allez tous jouer le jeu de l'épidémie en justifiant l'existence du sida comme un truc tombé du ciel envoyé par la fatalité pour parachever votre devenir artiste. Surtout vous, Guibert et Collard, vous avez donné au public ce qu'il attendait, non pas des séropositifs combattants, revendicatifs et coléreux, mais des créateurs convaincus de l'utilité de leur maladie et prêts à se poser en figure sacrificielle.
Pas Christophe Honoré, pardon, c'est vous, Marlène Saldana, justement. C'est un extrait de la pièce Les Idoles. Vous interprétez Jacques Demy.
Oui.
Initialement, vous deviez interpréter Agnès Varda.
Oui.
Et alors, pourquoi ça s'est pas fait?
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé encore, Marlène Saldana?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout simplement, on a commencé la création avec cette idée en tête. Enfin, c'est Christophe qui avait cette idée en tête. Et puis, en fait, plus on avançait, plus on se rendait compte que c'était impossible, dans une pièce qui s'appelle Les Idoles, de ne pas avoir Jacques Demy en personne, enfin, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas incarné sur scène, comme c'est quand même l'idole avec un grand I ouais. de Christophe.
Et c'est juste pour ça, parce que... interpréter à la fois Varda et Demy, vous auriez pu faire les deux, mais tout d'un coup, le personnage de Varda disparaissait.
Oui, mais parce que ça compliquait tout, et puis c'était l'idée aussi d'avoir 6 hommes sur scène, ouais. Enfin 6 hommes.
6 idoles.
6 idoles, homosexuels, morts du sida. C'était très bizarre tout d'un coup d'avoir une incursion d'une femme qui était à l'époque encore vivante, en plus.
Ouais. Aller à l'encontre du genre, en effet.
Et... ouais, c'était pas, et puis c'était que jouer sur de l'opposition par rapport aux autres. Et quand même, ce qui fait la force, moi, je crois, de cette pièce, c'est le groupe que ouais. forment ces hommes, même s'ils s'opposent dans plein de choses. Voilà, c'était dommage d'avoir un personnage comme ça un peu en dehors.
Cette fois-ci, on va vraiment entendre Christophe Honoré sur le sujet.
Ce que le théâtre permet, quand on disait le vrai, moi, c'est les comédiens sont les meilleurs outils pour ça. Parce que ça passe par leur corps, par leur voix, par leur vérité sur le plateau. Et moi, j'essaye de faire en sorte que sur le plateau, ils vivent vraiment pendant 2h30 devant nous. Par exemple, j'ai proposé à Youssouf Abiyayat, qui était un jeune comédien qui sortait du TNS, l'école de théâtre de Strasbourg, où Coltès a été. J'ai trouvé que c'était intéressant de lui proposer, en fait, de faire Coltès. Et j'ai pu proposer à Marina Foïs de faire Hervé Guibert, donc m'affranchir même du genre, ou à Marlène Saldana de faire Jacques Demy. Et après, il y a tout le travail de répétition a été, c'est de faire en sorte qu'à un moment, la personnalité de mes acteurs rencontre, en fait, quelque chose de la personnalité de ces figures-là.
Et où s'est fait cette rencontre alors, Marlène Saldana, entre vous et Jacques Demy?
Oh bah elle s'est fait évidemment dans les films, mm-hmm. ça c'est sûr. Parce qu'après moi j'ai un peu regardé les interviews de Jacques Demy, ou même les plages d'Agnès ou les choses comme ça. Et c'est une personne qui est complètement l'opposé de moi, mon caractère, ma manière de voir les choses, etc. Mais c'est vraiment par ces films qu'on a trouvé un terrain d'entente.
Et vous proposez sur scène un Jacques Demy vêtu d'un vison?
Oui. Comme dans Une chambre en ville.
Comme dans Une chambre en ville. Oui. Et Catherine Deneuve vous a vu...
Oh là là.
Ben oui, parce que là, pour le coup, on parle de Demi, on parle de Varda, certes, mais Catherine Deneuve, quand même.
Ah non, mais Catherine Deneuve, quand je l'ai vue dans ma loge, j'étais en pamoison. Vous vous rendez pas compte, pour moi, ce que c'est de voir arriver Catherine Deneuve du bout du couloir, hyper belle, avec c'est comme si... Je sais pas, c'est comme si on entendait les enchantés quand non mais c'est vrai, ça fait vraiment une image incroyable. Enfin, je la connais pas évidemment, je l'ai vue 5 minutes, mais très gentille, très généreuse. En tout cas, elle a dit des choses qui, je pense qu'elle sait que de sa part, on est content de les entendre, et c'est très généreux de sa part de les dire.
Et qu'est-ce qu'elle a vu justement dans votre interprétation de Demi, parce que...
Alors ça, je sais pas, hein, ouais. ce qu'elle a vu, elle avait juste l'air émue, contente. Voilà. Moi, après, je pense qu'elle a dû en parler avec Christophe plus tard, parce qu'ils sont allés dîner. Moi, je ne pouvais pas dîner avec Catherine Deneuve, sinon je n'aurais fait que la regarder bêtement, sans rien pouvoir avaler, et j'avais faim. Voilà. Mais,
Et quel est votre rapport, vous, aux icônes gays? Je disais que, très jeune, ou très, en ado, en tout cas, vous avez lu Hervé Guibert, parce que c'était un peu le livre qui était à la maison. Je crois que c'était Cito Mégalovirus.
Absolument, sur la table basse.
Ouais.
Oui, oui. Parce que ma mère a très tôt travaillé, ma mère, elle était, parce que maintenant elle est à la retraite, laborantine, elle faisait les analyses.
Pour les tests.
Voilà, exactement.
VIH.
Et donc, ma mère a tout de suite été très intéressée par tout ça. Moi, dans mes toilettes, je m'en souviens toujours, il y avait un virus du sida en coupe, comme ça. Voilà.
Donc ça fait partie du décor, et donc cette littérature aussi, ces sujets aussi, en fait.
Oui, vraiment, oui.
C'est là
oui.
où vous vous retrouvez avec Christophe Honoré sur cette période-là, en tout cas.
Ah bah moi, c'est vraiment un truc d'enfance. J'ai toujours été très concernée, mais à titre même personnel, par ces sujets-là.
Il est temps de rembobiner dans cette émission. Tous les jours, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire réagir notre invité dans le Transistor de Marlène Saldana. Un acteur, lui aussi, d'une liberté folle, Monsieur Jean-Yann, qui raconte à Jacques Chancel, c'est en 1969, l'envie qu'il a un jour traversée de devenir prêtre.
J'aurais pu être prêtre, ça, oui. J'aurais pu être prêtre jusqu'à l'âge de 12 ans, d'ailleurs, j'y ai pensé sérieusement. Je dois dire franchement que j'avais pas la foi. Enfin, le costume me plaisait, l'apparat, le cérémonial. J'avais été enfant de chœur, j'avais servi une messe d'ordination, j'avais eu le droit de toucher les gants et de mettre les chaussures à son éminence, le cardinal Suard. Alors, c'était bien. Bon, alors, ça me plaisait. Et non, j'aurais pu être prêtre fonctionnaire, je crois pas.
Jean-Yann, est-ce que ça vous fait plaisir, Marlène Saldana?
Ah bah ça me fait très plaisir parce que c'est un de mes acteurs favoris. Je le trouve absolument dingue, surtout, enfin dans tous ses films, mais surtout dans Que la bête meure. Dans cette scène, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film du repas,
ouais.
Où il lit le poème qu'il a trouvé de sa femme. Il est, mais il est incroyable parce qu'il est à la fois il est tout simple, mais il y a un truc qui suinte de lui, de méchanceté et de en même temps de tendresse qui est merveilleuse, qui est pour moi qui est tout, qui est.
Mm-hmm. Comment vous en êtes venu à... Est-ce qu'une figure comme Jean-Yann, enfant, a pu être un élément déclencheur? On se demande toujours d'où vient l'étincelle, cette envie tout d'un coup de monter sur scène, de jouer dans des films, d'être en représentation. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui a pu être à l'origine de ça?
Oui, je sais ce que vous voulez me faire dire.
Vous allez... Non, pas du tout, je sais pas du tout. Vous voulez...
Non, bon, moi quand j'étais petite, ado, tout ça, moi j'étais absolument fan d'Eddie Murphy.
Je savais que vous aimiez les marchés.
Donc ouais. Ça, c'est pour moi, c'est peut-être ça. Le déclencheur, en tout cas, l'envie de moi, les films où Eddie Murphy joue tous les personnages dans le salon de coiffure ou dans la famille Folding quand il fait la scène dans la cafétéria. Enfin moi, ça me rend dingue. Je trouve que c'est dingue. C'est de la folie pure de vouloir jouer tout et en même temps c'est tellement drôle et jouissif. Enfin, moi, je m'imaginais que c'était encore plus drôle à faire.
Ouais.
Voilà.
À interpréter, ouais. Vraiment. Et c'est ce qui vous a poussé à aller sur les planches, quelque part. Assumer cette envie.
Oui, peut-être.
Non, mais vous avez l'air de me parler d'Eddie Murphy en disant genre j'ai un peu honte de parler d'Eddie
Murphy.
Non,
j'ai pas honte. Non, c'est mais attendez, Sexy Chocolat, moi c'est le truc le plus drôle encore aujourd'hui. Vous me mettez devant Le Flic de Beverly Hills, je ris mais de bon cœur. Bon, pas du tout. Ah non, j'ai pas du tout honte. Ah non.
Vous l'imitez aussi ?
Oui, mais je ne vais pas
non,
le faire.
Non, mais je demande pas de le faire. Non, parce que comme vous êtes aussi connu pour votre capacité à improviser, que vous avez un certain nombre de figures.
Enfin, j'imite sa voix française, qui d'ailleurs est décédée cette année. C'est un.
Ah mince. Ouais. Ah, j'ignorais.
C'est une grande perte, parce que c'était un monsieur extraordinaire. Donc oui, enfin c'est Eddie Murphy et sa voix française.
Ouais, d'accord. Et c'est cette culture-là. En tout cas, voilà, on voulait vous faire un clin d'œil avec Jean-Yann, parce que on se disait qu'il y avait une sorte de parallèle aussi avec vous dans sa liberté, dans les rôles qu'il interprétait, et que c'était une façon de vous faire plaisir, Marlène Saldana. On a évoqué les idoles avec Christophe Honoré, et puis aussi, je parlais au début de cette émission de votre capacité à vous mouvoir dans l'espace, à occuper le plateau. Parce que la danse aussi a fait partie de votre vie.
Oui.
Et de façon assez assez intense. Je crois que ça a été un rêve déjà de gosse, un désir, jeune fille.
Bah non, pas vraiment. Enfin, un désir. En fait, pas tant que ça. Moi, quand j'étais petite, je voulais faire du violon, pour tout vous dire.
D'accord, encore la musique classique.
Ouais, la musique.
C'est marrant, ça, c'est une fille.
Mais comme ma sœur faisait du piano et que ma mère en avait ras-le-bol d'entendre des gens jouer mal, je n'ai pas fait de violon. Merci, Sandrine.
J'ai cru que vous vouliez.
faire
le conservatoire ou en tout cas faire.
Non. Mais c'est arrivé un peu par hasard. C'est Boris Charmat, en fait, qui m'a contactée pour participer à une pièce qui s'appelle Manger. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai accepté et j'ai bien fait, parce que c'était une expérience qui a duré un peu plus de 4 ans, qui dure encore d'ailleurs aujourd'hui. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des danseurs. J'ai eu une chance incroyable dans ma vie d'artiste. J'ai eu une chance incroyable. J'ai rencontré des gens incroyable, qui m'ont apporté beaucoup de choses, ouais, c'est sûr.
Et le rapport au corps, parce que tout d'un coup, vous parliez de nudité tout à l'heure, de body painting. Moi, je vous ai vu, par exemple, dans une performance qui s'intitule « Reflet de France ».
Oui.
Et j'ai vu deux versions.
Oui, la version habillée, la version pas habillée.
J'ai vu la version pas habillée. Enfin, si, parce que la peinture est une forme de vêtement, pour le coup. Comment est-ce que vous abordez ça? Je vous ai vu aussi dans Les Métamorphoses de Christophe Honoré, où là, pour le coup, on vous voit aussi nu. C'est souvent un sujet chez les comédiens, la nudité. C'est presque même une forme d'élément, de critère qui figure dans un contrat, en disant non, ça pour moi, ça sera pas possible. Vous, comment vous le vivez?
Oh là là, moi je le vis très bien. Vous savez, j'ai été modèle vivant pendant des années dans les écoles d'art. Et on en entend tellement de belles que je peux vous dire que pour moi, ça n'a. C'est comme un costume. Ouais. Mais vraiment, quoi. Mmh. Et à moins qu'on me demande de faire un truc épouvantable, je sais pas, humiliant, ou je ne sais. Enfin, bon, après, peut-être mon curseur sur l'humiliation, il est peut-être pas comme les autres, je sais pas. Mais en tout cas, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on était nus avec Stéphane Roger pour la compagnie du Zerep à Bruxelles. On faisait une performance qui s'intitule Séance de dessin d'après nature humaine, où on pose tous les deux nus dans des positions évidemment toutes plus abracadabrantes les unes que les autres. Et moi, ça me fait rire, en fait, beaucoup.
Et ça suscite le rire du public aussi?
Pas toujours,
ça peut gêner,
mais oui. Oui, moi, j'ai toujours l'impression que si c'est pas pour soi un défi ou un problème, il n'y a pas de problème. Puis j'ai l'impression que c'est tellement maintenant, il y a tout le temps des gens à poil partout. Franchement.
Que c'est devenu un peu monnaie courante, quoi.
Mais oui.
On écoute Cassius à présent dans le Mac de l'été, les 18h45 sur France Inter.
Oh,
Vous êtes bien dans le Mac de l'été sur France Inter avec Marlène Saldana. Marlène, on a évoqué le théâtre, on a parlé aussi de mise en scène et puis de performance. Je pense à Reflet de France. On va essayer d'en donner un court aperçu à nos auditeurs parce qu'il faut vraiment vous voir sur scène.
On sent bien le goût de la chiotte.
Oh, bravo Cécile, vous avez su presque instinctivement reconnaître la chiotte.
On en trouve aussi dans le reblochon.
Ah bah bien sûr, tous les roux sont croûtés à la chiotte.
Et pour la boulette d'avenne?
Pour la boulette d'avenne, c'est comme pour la mimolette, c'est la pâte qui est mélangée directement à la chiotte.
Vous voulez dire que la chiotte est dans la pâte?
Oui, c'est ça, oui.
Ça marche à chaque fois sur moi.
Oui, moi aussi, c'est ça qui est terrible.
C'est quoi cette première phrase?
On sent bien le goût de la chiotte.
Ouais.
Eh bien, c'est une phrase que nous avons trouvée avec Jonathan un soir où nous étions à la Villa Médicis, invités par Théo Mercier, puisqu'on a écrit cette pièce pour qui est dans une pièce de Théo Mercier. Et on était tous les deux à la Villa Médicis. Et puis on cherchait des trucs sur Internet, des trucs sur la fabrication du fromage. Et on avait bu des spritz. Et tout d'un coup, je vois à chiotte. Et on, voilà, ça sent bien le goût de la chiotte. On sent bien le goût de la chiotte. Et on a ri pendant 2 heures, je pense, sans pouvoir parler. Et voilà.
Et c'est le début de cette performance.
Et c'est le début, oui. Reflet de France.
Où on vous voit tous les deux goûter à toutes sortes de fromages, à deviser ensemble, en se demandant finalement quel est l'objet de cette conversation entre cet homme et cette femme de la haute. On va dire ça comme
bon,
ça.
L'objet, c'est une dégustation de fromage. Et puis, comme à l'époque, on regardait Game of Thrones. Qu'il y avait les histoires des corbeaux qui amenaient des nouvelles. Tout d'un coup, pendant la dégustation de fromage, arrivent des corbeaux. Donc, il y a un technicien qui nous lance des parchemins. Et sur chaque parchemin, c'est une citation de l'histoire de France. Donc, on a évidemment, je vous ai compris, on a Victor Hugo, l'abbé Pierre. Enfin bon, il y a une partie sur le Rwanda. Et à chaque fois, on retourne dans la dégustation de fromage. Et puis au milieu, il y a ce grand passage où je raconte le bal des Ardents, où je mange un brie entier. C'est assez
On compatit.
Voilà.
Moi, je vous ai vu dans un espace peu aéré,
oui,
avec l'odeur du fromage,
oui,
et la chaleur
humaine. Ah, bah, c'est la concoyote, c'est...
C'est ça,
oui.
C'est ça.
Plastiquement, c'est beau, mais... voilà.
À vivre complètement, c'est plus compliqué. Dans le Mac de l'été, Marlène Saldana, on a poussé les murs pour faire une petite place tous les jours dans cette émission à la poésie. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Une grande voix de France Inter, bien connue des auditeurs habitués, nous lit un texte.
Lire, écrire, dire non à la fatalité, méditer, dénouer les nœuds en soi-même, nouer complicité, garder capacité d'altérité. Rester éveillé à soi-même, aux autres et au monde. Être définitivement dans le mouvement de la vie qui passe, trace plus vite que les vacances d'été. Danser, tanguer, s'échapper belle souvent.
Vous l'avez reconnu, c'est Soro Solo que vous retrouvez tout l'été sur cette antenne du lundi au vendredi à 21h dans l'Afrique en solo. Souleymane, pourquoi avoir choisi ce texte?
Ce poème que je vous ai lu, il est extrait de la série « S'extraire du monde ». Et il est du livre de poésie écrit par le Camerounais, le franco-camerounais, Marc-Alexandre Owobambé. Et ce livre, c'est « Fragments ». Fondateur et auto-créateur de « On a slamé », du collectif « On a slamé sur la lune ». Je le trouve d'une sensibilité extrême. Parce que, en même temps, dans cette sensibilité, il y a ce désir de liberté. Le désir d'aimer la vie et ne pas non plus se laisser écraser par ce qui pourrait être une fatalité. C'est comme un texte d'exhortation, mais en même temps un texte de liberté, un texte de prendre la vie, la bouffer comme s'il n'y aurait pas de lendemain. Et en même temps, tout ça est dit avec une telle sensibilité, ça me touche. Moi, j'ai un slogan, je dis, il faut cultiver amoureusement l'optimisme. Et cet optimisme, je le trouve dans ce texte.
Voilà la voix de Soro Solo dans le Mac de l'été. Marlène Saldana, où est-ce qu'on vous retrouve bientôt? Au cinéma, sur scène? Il y a quelques dates déjà annoncées pour Les Idoles de Christophe Honoré, reprises au mois de mai à la Comédie de Reims en juin à Paris. Mais vous, vos projets, votre collectif, le ZEREP, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, avec le ZEREP, on joue deux pièces actuellement. Une qui s'intitule Les Chauves-souris du volcan. Et donc il sera au Centre Pompidou en février, je crois, et en tournée un peu partout en France. Et une autre pièce qui s'intitule Purge, Baby Purge, ouais. Excusez-moi, parce que j'ai l'ancien titre dans la tête. C'est une, c'est d'après, enfin, c'est On Purge Bébé de Fedo.
Revisité.
voilà, je s'il vous plaît, venez voir le Zéreb, parce que c'est un travail merveilleux que moi je fais depuis 11 ans, je crois maintenant, avec des acteurs, Stéphane Roger, Sophie Lenoir, Gilles Gaston Dreyfus, Françoise Klein, entre autres, qui sont, que pareil, j'ai eu une chance dingue de travailler avec eux, avec Sophie et Xavier aussi. Et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma pratique ouais. artistique et même dans ma vie, parce que ce sont mes amis.
On vous retrouve aussi bientôt au cinéma pour un film réalisé par Jeanne Balibar.
Absolument, Merveille à Montfermeil.
Vous incarnez qui là-dedans ?
Je fais Marilyn Boisy, une conseillère municipale.
Et enfin, quand même, Martial Di Fonzobo, Le Royaume des Animaux.
Le Royaume des Animaux, oui. Et ça, c'est pour janvier 2020.
Et en gros, le texte, l'histoire, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on peut dévoiler de ce travail ?
En gros, c'est une comédie musicale qui est jouée depuis 6 ans et qui s'arrête. Et ils se demandent tout ce qu'ils vont faire, ces acteurs de comédie musicale. En très gros.
Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes une grande voyageuse, Marlène Saldana, est-ce que vous voyagez beaucoup ?
Je voyage beaucoup avec mon métier, ouais.
Ouais, et est-ce que vous aimez voyager par ailleurs ?
Ah, j'adore.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Nous, ici, on aime bien, mais aussi, on est un peu feignants, on aime bien rester immobile. Donc, grâce à la littérature, au cinéma, au théâtre ou à la musique, on s'évade aujourd'hui. On s'exile surtout, tout comme le dandy algérien Rachid Mazouni, avec Écoute-moi, camarade, un titre de 74 que vous retrouvez sur un très bel album du label Born Bad Records. Merci à eux d'ailleurs.
Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même si paroles sont froides, tu dois les sentir pour autant. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à l'argent. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens solaire à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excusez-moi, vraiment tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Je t'en prie, oh camarade, on dirait tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade ? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi le camarade, le pauvre con, et me voilà.
Écoute-moi camarade de Rachid Mazzouni. Merci Marlène Saldana d'avoir été avec nous. Le mot de la fin.
Je vous en prie, j'étais enchantée d'être avec vous aussi. Et j'ai oublié tout à l'heure de dire qu'au mois de septembre, j'allais jouer Le Corbusier dans une pièce qui s'appelle Modern Living par le collectif Gérard and Kelly au Festival d'Automne. Ils m'en voudront si je le dis pas.
Ah ben voilà, le Festival d'Automne a un rendez-vous très important à ne pas manquer. Merci Marlène.
Merci beaucoup.
Merci à toute mon équipe, Hélène Bisio à la réalisation, Florent Bujon à la technique, Marie-Laurence Chéry, Raphaël Grimm, Marquis à la programmation, Jean-Baptiste Audibert aux platines, sans oublier mes deux stagiaires qui grattent du matin au soir, Maëlan Loaek et Anouk Valverde, que vous allez croiser bientôt sur les routes de France. Ma petite a eu le permis. Eh oui, on se retrouve dès demain, 18h, avec une femme qui fait vivre le patrimoine de la musique française, Françoise Canetti, des éditions du même nom, qui ont contribué à faire éclore tous les monuments de la chanson. Je vous souhaite une très très belle fin de journée sur France Inter. Et puis n'hésitez pas à écouter cette émission en podcast. Je vous conseille aussi un autre podcast. Je prêche un peu pour ma paroisse. C'est I Love Le Grand, consacré au grand compositeur, toute sa vie exposée en 9 épisodes. Vous n'allez vraiment pas pouvoir en décrocher.